de Francis Chevassu, Visage, Antoine. Antoine, qui est un comédien célèbre, est moins connu du public comme diplomate et comme homme d'État. C'est en 1903 qu'il aborda la carrière en qualité d'ambassadeur bénévole de la République des Lettres dans l'Amérique du Sud. Il y portait la bonne parole du théâtre libre. Le rôle ne semble pas lui avoir procuré les satisfactions auxquelles il croyait avoir droit. Les Argentins, accoutumés aux malveillances de l'opérette, ne goûtèrent point, paraît-il, la galanterie du novateur qui ne les libérait d'un ridicule nominatif qu'en les englobant, avec le reste de l'humanité, dans une cruelle disgrâce. Mais si le diplomate peut être contesté, le politique est remarquable. Et le jour où M. Antoine prendra enfin contact avec la Chambre par l'entremise d'un député ami, j'imagine que les parlementaires se contempleront en lui avec bienveillance, car il a le goût de la démocratie, de l'autorité et des situations officielles. Et c'est bien à ces signes qu'on reconnaît d'ordinaire le jacobin. La physionomie de M. Antoine révèle les deux premiers de ses traits de caractère aux observateurs les plus inattentifs. Lui-même, il prit soin de les mettre en valeur avec complaisance. Sa modestie dissimula longtemps le troisième avec une sorte de pudeur jalouse. Les curieux ne l'en avaient pas moins aperçu. Jadis, quand il se dépensait intrépidement afin de libérer le théâtre, une rosette violette posée gentiment à la boutonnière de son veston attestait déjà son respect des hiérarchies sociales. Au plus fort de la petite terreur où il menait chaque soir l'idéalisme à la lanterne, il faisait monter cérémonieusement en carrosse les périodes pompeuses et les phrases de gala de M. François de Curel, tel un parpillot enrichi invite le curé au château par déférence pour le répertoire de la comédie. Enfin, son aventure avec l'Odéon est touchante. Parmi la frivolité des succès demi-mondains du boulevard, sa fidélité obstinée se reporte vers le théâtre sage auquel il fut un instant uni par des liens légaux et dont il ne sut pas apprécier les vertus. Ce n'est point la dot qui le tente. Il l'aime pour lui-même, pour sa pauvreté mélancolique et décente. Il lui trouve un charme d'être respectable. Ainsi, dans les rêves de certaines indépendantes, le mariage prend parfois la couleur d'une entreprise chimérique et d'un plaisir presque défendu. Ces honorables regrets, cette constante poursuite, prête à l'histoire le tour sentimental qui charme dans les comédies de l'ancien gymnase, où le public est intéressé à un dénouement romanesque et honnête, les fiançailles du fondateur du théâtre libre avec la considération. On découvre presque toujours chez le révolutionnaire un conservateur qui s'ignore et qui attend une circonstance pour se déclarer. L'occasion se présenta pour M. Antoine avec Blanchette. On se rappelle les clameurs dont retentit la jeune école quand il obtint de M. Brieux que celui-ci modifiât le dénouement de la pièce et fit épouser par un brave villageois la fille du cabaretier perverti par le brevet supérieur. Les plus modérés soupçonnèrent en un pareil empressement à se ranger une manière de capitulation et comme des excuses publiques à l'ombre de M. Scribe. Fallait-il voir néanmoins dans le choix de la conclusion lénifiante une adhésion réfléchie au programme radical des lois sociales ou une concession aux vœux secrets de la bourgeoisie? Fût-ce le geste de Saint-Just à Cabotinville sacrifiant la vérité à la discipline du parti? Ou l'acte d'un coningue inavoué qui aurait pressenti son Georges Honnet en M. Brieux. Le problème demeure obscur. On risquerait toutefois d'être injuste en attribuant pour cause à ce phénomène un machiavélisme tortueux. Il faut plutôt y reconnaître la manifestation d'un état d'esprit préexistant, l'éveil de la crise dont nous suivons les curieux effets et qui se manifeste encore par d'étranges obsessions. Quand M. Antoine monte en hâte le colonel Chabert, s'il voit poindre au second théâtre français l'ombre de la Rabouilleuse, et quand, à la veille de l'absent, il oppose sa Hollande à la Hollande de M. Geniski. On doit se rappeler, en effet, que le coup d'État de Blanchette se produisit au lendemain de la courte dictature où le fondateur du théâtre libre, avec des allures débraillées, entra beauté dans le répertoire et ne craignit point d'humilier les usages devant M. Albert Lambert, père. M. Antoine ne prétendait à rien moins qu'à faire marcher Corneille et à mettre Racine au pas. Cependant, tandis que par sa vigueur il faisait trembler les petites actrices et réveillait en sursaut les acteurs assoupis en leur ronron, la tradition malmenée et incomprise préparait secrètement sa revanche. Elle insinuait dans les veines du barbare le poison subtil de la déférence. Capta ferrum victorem sepi. Et les tragédiens paisibles qui déploient la tirade comme de vieux drapiers, d'un geste fatigué mais encore sûr, déroulent une belle pièce d'étoffe dont ils font miroiter les reflets, prirent à ses yeux une dignité insoupçonnée. Derrière un pauvre Bajazette ou un Mithridate ennuyé, il entrevit soudain la longue file ininterrompue des Bajazettes et des Mithridates qui les encadrent, les soutiennent, les excusent au besoin. C'est un fait remarquable que le théâtre d'État soit la seule institution sur laquelle le temps n'ait pas eu de prise. La magistrature, le barreau, le clergé même, modifièrent leurs aspects. Lui seul reste intact et debout. Il y a des chevrotements, des grimaces, des révérences, des transports et des vibrations que les confidents, les valets, les coquettes, les amoureux et les pères nobles se transmettent depuis 200 ans comme des consignes. La Révolution passa sur les théramènes et sur les dorantes sans déranger leurs trémolos ou faire bouger leurs sourires. Le transfuge de la Gaîté Montparnasse subit vivement la grandeur d'un tel spectacle. Il en éprouva la majesté. On est du moins tenté de le croire puisque son zèle de néophyte l'entraîne aujourd'hui jusqu'en des projets de restauration devant lesquels hésiterait M. Cornaglia. Il rêve de jouer le classique en perruque. Voilà bien les ardeurs imprudentes d'un candidat épris. Ici, l'opportuniste semble presque dépassé par le gentilhomme de la chambre. Et dans ce zèle, on croit discerner l'état d'esprit qui, en 1805, a mené tout à coup les anciens conventionnels à découvrir un sens social aux pompes de Louis XIV. Monsieur Antoine est également téméraire dans ses complaisances de rallié et dans ses entreprises de novateur. Il y a autant d'impertinence à prétendre rajeunir la tragédie qu'à lui témoigner des égards distingués comme des condoléances. Ce sont les écrivains du XVIIIe, Voltaire excepté, qui imaginèrent de la retrancher de la vie, la reléguant parmi les curiosités de musée, ainsi qu'une beauté refroidie et qui n'est plus d'usage. Leur initiative aboutit, avec les romantiques, à cette singulière méprise d'opposer comme des modèles de vérité Marie de Neubourg à Bérénice et Donia Sol à Andromaque. Le bon sens fit justice de cette prétention. Il nous apparaît avec évidence que Racine agite les débats qui n'ont pas cessé de passionner l'humanité. Maître Décory plaida le procès d'Andromaque devant le tribunal de la Seine. L'héroïne était mercière et Pyrrhus, garçon boucher. Maurice Donnet rencontra Bérénice dans le demi-monde. Seulement, L'art du grand roi avait une manière de protocole, et dans son théâtre sévèrement hiérarchisé, la douleur était noble, comme si la catastrophe, en frappant les têtes hautes, indiquait une hostilité nominative des dieux. Une lutte inégale et grandiose avec le destin. Tandis que les tares médiocres de la vie étaient laissés en charge aux croquants pour lesquels ne sauraient expressément se déranger les colères divines. Est-ce à dire que les petits fussent jugés incapables de souffrance ou les grands exempts de mesquinerie? Non, certes. En contemplant sur la scène ces princes et ces princesses qui accompagnent leurs plaintes de gestes harmonieux, les plus humbles savaient reconnaître leur misère somptueusement parée. Peut-être même n'étaient-ils pas insensibles à l'attention du poète qui faisait à leur pauvre cœur l'hommage d'augustes victimes. Il ne leur semblait pas surprenant qu'on donnât le décor d'un trône qui s'effondre à la chute d'une tendre veuve, livrant, par passion maternelle, sa faible chair au désir d'un nouvel époux. Et la souveraineté de l'amour semblait encore rehaussée à leurs yeux si la rupture des deux amants épris avait l'Empire pour témoin. Le grief qu'on pourrait faire au classique, ce n'est point d'avoir méconnu la vérité, mais de l'avoir transposée. Dans ce théâtre, en effet, les petits pleuraient à leur déboire, exaltés en des cœurs illustres. Les grands riaient de leur ridicule confié à des âmes roturières. C'est ce dont ne s'avisèrent pas les réformateurs qui, peu d'années avant la Révolution, demandèrent la déchéance des rois de tragédie. Au lieu d'apercevoir en eux de magnifiques substituts, ils tinrent à les considérer comme de véritables tyrans qui usurpaient les sympathies du peuple. En préconisant le drame bourgeois, ils ne se bornaient point à dénoncer un privilège, ils se réclamaient de la vérité. On ne saurait reprocher à M. Antoine une semblable confusion. L'appareil aristocratique de Racine ne lui imposa point. Il refusa de voir en ses héros des personnages redoutables et lointains. Il eut plutôt péché à leur égard par un excès de familiarité. Il demanda à Britannicus ses papiers, et s'étant aperçu qu'il était un homme, il traita l'héritier des Césars avec une désinvolture où l'on sentait que la majesté impériale ne l'impressionnait point. Cet accueil cordial, cet empressement à fraterniser, était au moins d'un démocrate. Aussi bien sa manière de concevoir la tragédie, j'entends sa première manière, celle dont nous connûmes un piquant échantillon en 1898, atteste-t-elle moins le souci d'un psychologue scrupuleux que l'obscur tourment d'un bousingot ennemi des disciplines. Il parle de la réalité sur le ton d'un tribun. Et ce mot, qui résonne comme un mot d'ordre, prend dans sa bouche un sens mystérieusement comminatoire, l'accent d'une revendication égalitaire. Du reste, la politique de M. Antoine nous a paru avec un relief singulièrement pittoresque en une série d'œuvres modernes où, au lieu de ramener les héros à l'humanité, on soumettait à cette épreuve les représentants de la bourgeoisie et du prolétariat. Les auteurs avaient imaginé la plus ingénieuse formule d'égalité, l'égalité dans la muflerie. Les Parisiens n'ont pas oublié leurs essais piquants. Sous prétexte d'offrir une image impartiale de la vie, on disposait sournoisement les contingences en vue d'une conclusion positive, quoique informulée. Cela évoque dans la mémoire une menue variété de l'art nouveau auquel les badauds s'amusèrent un instant et qu'il est convenu d'appeler le théâtre Ross. On désigne sous ce terme l'ensemble des productions ou d'impitoyables dramaturges avec des airs avantageux et un gentil orgueil de découverte illustraient dans l'enluminure violente et sommaire des moralités à rebours. Les apologues, avaient une manière de charme irritant, car en les écoutant, on ne savait jamais au juste si l'on devait applaudir à une audace ou sourire à une mystification. Et ainsi, ces recueils d'incivilités puériles et honnêtes qui participaient dans une égale mesure du réquisitoire et de la charge d'atelier assuraient à l'impresario un double public. Cependant, au milieu d'une clientèle mêlée de libertins et de dévots, M. Antoine conservait la gravité d'un pontife. Et son apostolat était tout à fait dénué de badinage. Dans le roman de Flaubert, Apollonius de Tyanes, parlant à saint Antoine, dit de son disciple « C'est un simple, il croit la réalité des choses ». Le fondateur du théâtre libre a-t-il été dupe d'une pareille illusion? Le réalisme fut mieux que son programme, son évangile. Sa foi sans malice l'honora d'une dévotion sans inquiétude. Il reconnut en lui le visage de la vérité même. La grosse monnaie dont un moraliste prudent peut, avec probité, composer le prix d'une observation, eut dans son esprit une valeur intrinsèque. On aime d'ailleurs à retrouver sur le visage de l'esthète la marque de cette innocence qui amusa la galerie quand M. Ginisti, avec une finesse paysanne, roula de ses mains auvergnates son fougueux associé. Le trait complète agréablement une physionomie d'homme d'action. Cette candeur entrevue prête à la campagne de M. Antoine une signification inattendue. Loin d'entreprendre contre l'idéal, celle-ci devient de la sorte une croisade au pays du mufle. Elle évoque la noble révolte d'un poète qui cache pudiquement ses inquiétudes morales sous des vêtements vulgaires. M. Antoine, qui dissimula longtemps un respectueux, nous promettrait-il par surcroît un mystique? Et le goût qu'on put croire pervers avec lequel il fit la peau bouille naturaliste est-il la délectation morose d'un néo-chrétien qui s'énivre en des élans frénétiques de pénitence, en des aveux publics d'humiliation? Ce serait pour M. Antoine la meilleure manière d'honorer son saint. Un précepte religieux oblige, dit-on, les femmes hindoues à se purifier dans le Gange quand elles ont fait la cuisine. Cependant, alors que les justiciers de M. Antoine exécutaient sans recours les sentiments nobles et les vertus bourgeoises, M. Capu parut, avec ses comédies imprégnées d'un délicieux parfum de directoire, ses héros d'une si charmante bravoure et si cordialement d'accord avec la vie. Puis M. Rostand étala insolemment sur la scène ses somptuosités impériales, fit défiler à la porte Saint-Martin et chez Sarah, comme les dragons et les grenadiers de la légende, les alexandrins chevelus, les couplets épiques. Ce sont ces triomphateurs qui bousculèrent les constructions fragiles de M. Antoine et les reléguèrent dans l'histoire. Le théâtre Ross, qui n'avait pas la beauté du diable, ne pouvait porter la vieillesse avec grâce. Est-il du reste rien de plus comique que ceci, le rococo de la rosserie? M. Antoine continue de se dépenser en gestes énergiques. Il enfonce des portes qui ne sont pas toujours fermées avec soin et derrière lesquelles on entrevoit des dramaturges au sourire engageant. Mais il se contente d'être désormais le plus avisé des directeurs. C'est un révolutionnaire mort jeune en qui l'impresario survit. S'il redevient directeur de l'Odéon, il montera sagement Britannicus. Il donnera de plus un excellent petit got au second théâtre français. La fortune qui est malicieuse nous réserve peut-être cette jolie surprise. Ce serait si amusant que l'intrigue romanesque dont le chef de l'école Ross fit le roman secret de son cœur dictatorial reçut un dénouement optimiste dans l'esprit de la Veine ou de la Châtelaine.